multitude de crises qui courent depuis votre tendre enfance, puisque vous êtes beaucoup plus jeune que moi, dans des tas de domaines différents. Alors, par exemple, en santé humaine, donc le SRAS, crise mondiale de 2003. Bien, voilà, vous voyez, c'était local. Le sida depuis une vingtaine d'années, les tuberculoses multirésistantes, le vaccin contre l'hépatite B, les maladies nosocomiales, la pandémie grippale. En gros, tous les mois, vous avez potentiellement un dossier de nature sanitaire qui envahit l'espace public et qui vous est annoncé comme une menace qui touche toute partie d'une population qui peut être française, européenne, mondiale, africaine, etc. Du côté de l'alimentation, ça va pas beaucoup mieux, puisque vous avez la listeria, l'ESB, c'est-à-dire la maladie de la vache folle, qui a dû bercer votre enfance, les salmonelloses, les résidus d'antibiotiques dans la viande ou les différents produits, les OGM, bien sûr, dont on parlera tout à l'heure, mais aussi le vieux dossier des hormones bovines qui permet de faire pousser des bovins très rapidement, mais qui éventuellement aurait des effets sur la santé via l'alimentation. Dans le domaine environnemental, c'est pas mieux, puisqu'on a les dioxines, en particulier près des incinérateurs, la question des pesticides, le benzène, le gaucho est un insecticide qui aurait des effets sur la population d'abeilles, et comme vous le savez, en tout cas suivant les théoriciens de l'agronomie, si les abeilles disparaissent, nous avons 4 ans à vivre, puisque sans abeilles, beaucoup de plantes ne peuvent être fertilisées, et sans plantes, c'est-à-dire sans légumes et sans céréales, évidemment, assez rapidement, nous avons des problèmes d'alimentation. Le plomb, l'aluminium dans l'eau, et puis du côté des technologies, alors quelques exemples, les antennes relais et le téléphone portable, dont les effets nocifs sont discutés depuis une vingtaine d'années, le nucléaire, bien sûr, les produits sanguins, avec l'affaire du sang contaminé qui date pour vous, ou l'amiante. Donc on a une série de dossiers, en gros, dans l'espace public français, de manière quasi permanente, depuis 20-25 ans, qui agitent régulièrement. Et par rapport à ces dossiers, il y a trois interprétations qui sont dominantes. La première, c'est vous dire, finalement, on sort d'une époque dans laquelle on avait une relative certitude sur notre environnement. Et aujourd'hui, le monde est moins sûr. Alors pourquoi le monde est moins sûr? Assez rapidement, ça dérive sur deux formes d'explication. Soit c'est à cause du capitalisme, c'est-à-dire en gros la recherche du profit et de l'argent à court terme qui menace à moyen terme, ou qui menace d'autres personnes, pas ceux qui gagnent de l'argent, mais ceux qui récupèrent les déchets, par exemple. Vous savez que toute une série de déchets, y compris de déchets européens, circulent illégalement et se retrouvent, par exemple, en Afrique. Voilà, l'affaire du propos koala, un petit bateau qui s'est retrouvé dans un port qui a provoqué quelques morts avec des déchets extrêmement toxiques à son bord. Ou critique de la mondialisation, c'est-à-dire l'idée c'est qu'on a une circulation sans arrêt plus vaste et que cette circulation provoque des effets délétères. Deuxième type d'interprétation, la science est en crise. En gros, on produit des nouvelles technologies pour produire de nouvelles technologies, voilà, simplement parce que c'est joli, parce qu'il y a des ingénieurs, il y a des chercheurs, ça les excite, etc. Mais finalement, leur utilité sociale est beaucoup plus faible, voire nulle, voire négative, puisqu'elle provoque des effets indésirables. C'est évidemment typiquement le cas des OGM, qui est ici cité de manière emblématique, c'est-à-dire on dit les organismes génétiquement modifiés, c'est un truc d'ingénieur, c'est magnifique, mais ça sert à rien, et c'est pas avec ça qu'on résout la faim dans le monde. En revanche, on va détruire des tas d'autres cultures. Enfin, un troisième type d'explication, et celle normalement on attend les sociologues, les populations sont irrationnelles. C'est-à-dire, en gros, en fait, tout ça c'est du bruit. Et s'il y a des problèmes, c'est soit à cause des médias, qui font pas leur travail, c'est-à-dire ils aiment bien le sensationnel, voyez. Ils aiment bien quand il y a des morts, ou qu'on vous dit potentiellement il y a des morts, ils aiment beaucoup ça. Ou c'est la critique des juges, c'est-à-dire les juges accorderaient par exemple aux victimes des indemnisations qui ne seraient pas justifiées du point de vue rationnel. Donc voilà ces trois types d'explications qui visent évidemment, vous voyez, des acteurs différents, qui sont très différents quant au diagnostic. Alors je vous le dis tout de suite, je ne suis d'accord avec aucune des trois. Et je vais essayer d'expliciter pourquoi on a effectivement cette multitude de dossiers et pourquoi le diagnostic peut être beaucoup plus ambigu que ces trois types de diagnostics. Ça, c'était mon introduction. Je surveille ma gardienne du temps. Je vais faire une présentation en trois temps. D'abord, je vais essayer de définir ce que c'est qu'une nouvelle technologie et quel est le rapport avec le risque. Ensuite, je passerai un long moment sur la question de l'évaluation des risques. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on sait que quelque chose est risqué ou pas risqué? Quel type de risque on désigne? Comment est-ce qu'on mesure? qu'est-ce qu'on en tire. Et enfin, j'aborderai la question du principe de précaution. Alors, une innovation technologique, qu'est-ce que c'est qu'une innovation technologique? C'est une question qui est extrêmement compliquée, en fait. La première chose à savoir, c'est que l'innovation, aujourd'hui, est quelque chose qui est valorisé, et pas simplement dans le discours du gouvernement. C'est la valeur, sans doute, principale du monde occidental, avec les droits de l'homme et les libertés fondamentales. C'est-à-dire, l'innovation, c'est forcément bien. Ça, vous avez à peu près 2 siècles de pensée occidentale massive. L'innovation, c'est bien. En face, la tradition, ça peut être bien aussi, mais l'innovation, c'est quand même très très bien. Et c'est ce qui nous permet d'avoir des nouvelles choses, de faire des progrès, de vivre plus longtemps, d'avoir une meilleure santé, d'avoir des services qu'on n'avait pas auparavant, etc., etc. Donc l'innovation est très fortement valorisée parce qu'elle est liée systématiquement à la question de la recherche et à la production de connaissances. Ensuite, l'innovation technologique est prise dans un système juridico-économique, en particulier les systèmes de propriété intellectuelle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une innovation technologique? Assez rapidement, on va vous dire, c'est quelque chose qui est lié à un système de propriété intellectuelle, par exemple un brevet. C'est-à-dire, là, on marque le fait qu'il y a une nouveauté, et on attribue la nouveauté à quelqu'un, en tant que tel. En fait, le problème, c'est que depuis une trentaine d'années, vous avez des brevets pour tout et n'importe quoi. Vous avez une espèce d'inflation générale des brevets, en particulier dans le modèle américain, mais aussi par importation dans le modèle européen. Ce qui fait que des gestionnaires, des sociologues ont essayé de définir l'innovation sur 2 modèles différents, l'innovation de rupture versus l'innovation de continuité. Alors qu'est-ce que c'est qu'une innovation de rupture? En gros, c'est le passage du disque au CD-ROM. Du disque, la galette noire, les trucs que vous n'avez pas connus. C'est-à-dire, on a une véritable transformation, on passe d'un signal analogique à un signal numérique. Le type de codage n'est pas du tout le même, évidemment. Le type d'information n'est pas le même. Le type de support n'est pas le même. Le type de lecteur n'est pas le même. Donc là, on a une véritable rupture. Une innovation de continuité, c'est passer du CD-ROM une face au CD-ROM 2 faces. Voire au super CD-ROM, voire au hyper CD-ROM, voire au DVD-ROM, au DVD-ROM et plus, etc., etc. Où là, vous avez des petits sauts. Et en gros, vous avez la technologie numérique avec un rayon dont éventuellement vous faites varier la fréquence. Vous multipliez les couches, mais on ne considère pas que c'est une innovation de rupture. Alors ça, c'est très important par rapport à tout ce que je vais dire ensuite, parce que le plus souvent, on va considérer que sans risquer les innovations de rupture. C'est-à-dire que quand on est dans un modèle adaptatif, vous voyez, on chauffe un peu plus, on met un peu plus de choses, on va dire, ah ben ça c'est pas risqué, on connaît. C'est un petit peu différent, mais on connaît. Alors que l'innovation de rupture va entraîner un regard plus suspicieux quant à sa possibilité de risque. Et c'est l'une des questions sur lesquelles je reviendrai. Est-ce que les OGM, c'est une innovation de rupture ou pas? Et, parce qu'on vous dit, d'un côté, c'est ah bah oui, la sélection des plantes, on l'a fait depuis 5000 ans. Alors, si c'est pas nouveau, il n'y a pas de raison de le considérer différemment. Si on considère que c'est vraiment nouveau, on peut lui appliquer des procédures spécifiques. Alors, voilà une petite illustration. Je reviendrai sur ces 2 exemples de la valorisation de l'innovation. Donc, des images. La première date des années 30, de mémoire, et la seconde date des années 50. Alors, la première, vous voyez là, asbestos, ça veut dire amiante. Donc c'est pour dire, voilà, vous avez une compagnie qui vous produit de l'amiante, et l'amiante c'était surnommé aux États-Unis le Magic Mineral, parce que c'était quelque chose d'extraordinaire, qui protégeait contre le feu, qui était léger, qui était travaillable, vous pouviez en mettre sur la surface que vous souhaitiez, c'était extraordinaire, et donc on vous dit, voilà, c'est résistant à la chaleur, à l'eau, au temps, à tout, absolument, à l'usure, donc c'est formidable, c'est vraiment le matériau qu'il faut utiliser dans tous les sens. J'imagine que vous savez aujourd'hui comment on considère l'amiante. Deuxième exemple des années 50, eh bien voilà, le médicament qui vous permet d'éviter l'avortement, la fausse couche et le travail prématuré. Vous voulez mener votre grossesse à terme, madame, eh bien, grâce au DES, diéthylstilbestrol, vous allez avoir un magnifique bébé. C'est formidable. Donc voilà, les innovations dans le domaine, on va dire, du bâtiment et dans le domaine médical sont valorisées, y compris à travers un système de marketing ou de publicité. Je reviendrai sur ces 2 exemples tout à l'heure. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que cette question du lien entre innovation et risque est une question extrêmement ancienne, puisque, donc je prends quelques exemples là, les premières transfusions sanguines sont des transfusions animales-hommes, dès les premières transfusions, bon, d'abord il y a un mort, c'est-à-dire le sang de l'animal n'a pas sauvé la personne, et il y a tout de suite un procès. Et dans ce procès, les juges mettent en cause le caractère périlleux de l'expérimentation et disent « Vous faites de l'innovation sans contrôle. » Je précise, on est au XVIIe siècle. D'accord ? On n'est pas en 1930. Donc, dans la tradition occidentale, la valorisation de l'innovation ne s'accompagne pas d'un jugement sur le fait qu'il n'y a pas de risque, c'est normal, on peut y aller, il n'y a aucun problème. Autre exemple, la distribution d'eau et le choléra. L'un des progrès absolument majeurs du XIXe siècle, c'est la distribution d'eau potable, si ce n'est dans tous les foyers, en tout cas à travers des circuits à peu près prévus, c'est-à-dire en gros on arrête de prendre l'eau dans les puits, dans la rivière, on prend à travers des circuits un petit peu formatés. Le problème, donc c'est une belle innovation technologique, on met des tuyaux partout et même sans amiante à l'époque. Le problème c'est ça. Alors c'est quoi ça? C'est le travail d'épidémiologiste anglais Snow à Londres. En fait, vous voyez ici, vous avez une pompe. Donc on pompe dans la nappe phréatique et on fournit de l'eau aux foyers londoniens, en particulier aux foyers londoniens pauvres, qui ainsi ont de l'eau à 10, 20, 30, 50, 100 mètres de chez eux, au lieu de l'avoir à quelques kilomètres ou de le prendre dans la Tamise. C'est formidable. Vous voyez les petites barres noires, c'est les cas de choléra, c'est-à-dire les morts par choléra. Qu'est-ce que voit Snow? Il voit, j'ai pas pris tout le plan de Londres, qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de cas autour de la pompe. Sa conclusion, c'est que le tuyau, enfin le robinet, avait été contaminé et que le choléra était une maladie transmissible par l'eau et donc par contact. Il fait fermer la pompe, les gens vont ailleurs, l'épidémie s'arrête. Et donc la technologie elle-même est évidemment très favorable, c'est-à-dire donner de l'eau aux personnes chez eux ou à proximité de chez eux, c'est très bien. Mais en même temps, vous générez un risque nouveau. Et un risque sériel, puisque au lieu d'avoir chaque personne qui se sert de sa bassine, vous avez des milliers de personnes qui se servent du même tuyau. Ce tuyau est contaminé par un vibrion de choléra qui n'est pas du tout connu à l'époque, eh bien vous avez des centaines de morts. Donc, vous voyez, ça ne date pas d'hier, il n'y a pas besoin d'avoir les nanotechnologies. Autre exemple générique, les modes de transport. Alors, les modes de transport, vous avez un grand classique, vous avez ça dans de très nombreux romans, qui est la question de la quarantaine des bateaux. Vous savez que quand un bateau arrivait, en particulier d'un certain nombre de zones qui étaient supposées contaminées, il pouvait rester 40 jours au large du port. Qu'est-ce qui se passe pendant 40 jours? Eh bien, les gens meurent à bord ou pas, sont malades ou pas, et après, on sait, on pense qu'il n'y a plus de problème de maladie. C'est-à-dire que l'idée que les bateaux qui permettaient de rapporter des richesses, des épices, voire des esclaves, donc des richesses de toute nature, c'était bien, mais ça entraînait des risques supplémentaires, c'est-à-dire l'importation de maladies, alors qu'on ne connaissait pas la nature des maladies, la nature des agents en question. Évidemment, ce qui se passe avec les bateaux se passe aussi avec les avions. Et ça vous donne ceci. Ça, c'est l'épidémie de SRAS. Au départ, vous avez un médecin chinois, de la province du Guangdong, qui arrive dans un hôtel à Hong Kong, l'hôtel M. Il prend une chambre, c'est un hôtel super sympathique, relativement luxueux. Et puis vous voyez, il est un peu malade, il va aux toilettes, etc. D'autres gens vont aux toilettes, pas dans la même chambre, mais bon, apparemment, il y a des espèces de micro-fuites dans les tuyaux de descente. Donc, ils inhalent un virus, et vous voyez ces gens-là, par exemple, EDC, hop, eux, ils vont à Singapour. Et à Singapour, quand ils prennent l'avion, eh ben, ils sont malades. Et à Singapour, HCW, c'est Healthcare Workers, c'est-à-dire professionnels de santé, eh bien, il y a d'autres malades. Et vous voyez, il y en a un, c'est docteur, qui était malade, mais qui ne savait pas avant de partir, qui va en Allemagne, boum, et qui contamine sa famille. Monsieur I part aux États-Unis et contamine d'autres personnes. Madame G, qui meurt en passant, mais avant de mourir, elle a pris l'avion, se retrouve au Canada où vous avez trois épidémies successives à Toronto. Donc grâce à des avions, c'est comme dans l'armée du singe, grâce à des avions, en trois semaines vous avez une épidémie mondiale. Formidable les avions, tourisme et tout ça, c'est génial. Mais vous voyez le risque associé, c'est que par la capacité de transport, vous avez un risque associé qui évidemment n'était pas du tout dans l'idée des concepteurs de l'avion. Mais si aujourd'hui, par exemple, on disait, est-ce que c'est intéressant l'avion ou pas, on doit prendre en compte le risque microbiologique. Ou, par exemple, après le chikungunya, vous avez vu arriver de nouveau les moustiques dans les avions. Air France avait oublié, parce que la Réunion, c'est la France. Donc, vous voyez, c'est pas le tiers-monde, etc. Et donc, on balance des insecticides dans l'avion, puisque le gentil moustique, quand même, de temps en temps, il fait des morts à Roissy. Il y a une petite fille de 5 ans qui est morte du paludisme, une crise de palu à Roissy. Parce que, voilà, le petit moustique avait survécu quelque temps dans le coin, et pof. Donc, les avions, c'est dangereux. Maintenant, est-ce qu'on doit tenir compte de ce risque pour, par exemple, interdire les vols? Vous allez me dire, non, c'est de la folie. Sauf que quand vous parlez de pandémie de grippe aviaire, la première mesure qui est prise, c'est l'arrêt des vols. D'accord. Donc voilà des exemples de rapports entre technologie et risque. J'en suis à combien de temps?
Un quart d'heure.
Un quart d'heure, c'est parfait. Donc le deuxième quart d'heure, je vais le passer autour de cette question de l'évaluation des risques. C'est-à-dire que maintenant qu'on sait que chaque technologie peut être associée à des risques, comment est-ce qu'on fait pour les évaluer? Alors il y a trois questions principales. D'abord, est-ce qu'il faut les évaluer? On pourrait dire, ben non, de manière la technologie, c'est bien. Enfin, si c'est bien, ça se vend. Si ça se vend, c'est que c'est bien. Donc tout le monde a un téléphone portable et puis on verra s'il y a des concerts dans l'avenir. C'est une façon de voir les choses qui est intéressante. C'est de l'expérimentation vendeur nature. Non, mais je veux dire, c'est admissible. Qu'est-ce qu'on a fait pour les voitures? Vous voyez, les ceintures de sécurité sont apparues à peu près 80 ans après les premières automobiles. Ben, pendant 80 ans, les gens sont passés à travers leur pare-brise. Ben oui, mais c'était bien l'automobile parce qu'on pouvait aller loin, vite, c'était pratique, on pouvait transporter des trucs, donc on pouvait continuer à avoir des voitures. Deuxième question, comment les évaluer? Alors, je vais y passer pas mal de temps, parce que ça, c'est une question qui est problématique. Et enfin, qui les évalue? Et qui paye pour l'évaluation, sous question. Alors, faut-il évaluer les risques? La première question, c'est de quel risque parle-t-on? Vous vous rappelez, à l'instant, je parlais des avions. Alors, on va dire, si on évalue le risque des avions, on va évaluer un risque technologique. En gros, est-ce que l'avion se casse la gueule ou pas? Mais vous voyez que d'autres risques peuvent intervenir. Par exemple, les risques de travail associés. Est-ce qu'un avion qui se balade à 10 000 mètres d'altitude, en permanence, c'est mauvais pour le personnel de bord? Alors, a priori, vous allez me dire, non, pourquoi? Bah si, parce qu'il y a des problèmes de circulation, par exemple, de circulation sanguine, donc vous avez des maladies professionnelles associées. Et puis, il y a la question, est-ce que le fait d'être exposé aux rayons cosmiques beaucoup plus que les personnes ordinaires provoque des cancers? Donc c'est une autre façon d'évaluer l'avion, vous voyez, qui est de nature complètement différente. Il y a la question du travail, qui est de nature complètement différente. Autre mode d'évaluation de l'avion, les fameux, maintenant, équivalent CO2. En fait, l'avion est trop polluant, ou coûte trop de carbone, etc. Donc on pourrait arrêter l'avion pour cette raison, qui n'a rien à voir avec sa sécurité en lui-même, si vous voulez. En gros, on ne fait plus jamais Concorde, parce que de toute façon, c'est un gaspillage hallucinant qu'on ne peut pas se permettre. Vous voyez, c'est une évaluation de risque qui est de nature complètement différente d'une évaluation sanitaire, d'une évaluation liée au travail, d'une évaluation technologique elle-même. Les risques reprotoxiques, j'y reviendrai. Les risques d'usage, ça c'est un exemple qui est toujours assez amusant. C'est-à-dire, vous pouvez évaluer une poussette. C'est un endroit qui est assez intéressant, c'est le laboratoire national d'essai où on essaye des tas de choses. Donc vous pouvez évaluer une poussette et voir qu'elle est parfaitement sûre. Et puis après, vous mettez des enfants autour de la poussette et vous voyez ce qu'ils font avec. Et là, vous voyez que, en fait, il fait des trucs qui ne sont pas prévus dans le mode d'emploi. Parce que c'est un enfant, c'est ça qui est formidable. Et donc, du coup, en gros, il peut se couper un bras en deux avec la poussette. Donc, c'est un peu gênant, vous voyez. Donc, les risques d'usage, ce n'est pas négligeable. Jusqu'où doit-on tenir compte des risques d'usage? Je vous rappelle que la méthode américaine, qui est la forme du contrat complet, c'est par exemple ne pas voir l'encre des imprimantes. C'est marqué, parce qu'évidemment, un jour, quelqu'un dit « Oh, ça a l'air drôle, comme ça, ça ressemble un peu du coca, hop !» Il a bu, il a été un peu malade, il a fait un procès. Mais il a marqué « Ne pas boire ». Vous allez dire « Mais quelle idée !» Oui, mais le risque d'usage, c'est précisément ça. C'est quel type d'utilisateur vous supposez pour une technologie? Par exemple, dans un avion, quelqu'un qui ouvrirait la porte d'accès, vous voyez. Vous allez dire « c'est marqué partout, pas ouvrir ». Puis on sait bien. Mais comment est-ce que vous savez? Parce que vous avez eu des films, ou parce que vous savez lire la langue. Si on vous met en Chine, par exemple, et que vous n'êtes jamais monté dans un avion, eh bien, vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous êtes un danger, en tant que tel. Donc, en général, dans les avions, les usagers, on les maintient à leur siège, c'est le meilleur moyen. Mais il y a d'autres technologies qui laissent une place beaucoup plus importante aux usagers. Une fois qu'on a dit ça, il y a une autre question qui est très importante sur laquelle je reviendrai, c'est est-ce qu'il faut évaluer les bénéfices et les progrès? C'est-à-dire, est-ce qu'on fait une évaluation symétrique en disant ceci est risqué, mais c'est très intéressant? Ou est-ce qu'on regarde que les risques et pas du tout les progrès? Alors, c'est deux options qui sont assez différentes et qui dépendent vraiment des domaines, mais qui est une vraie question, parce que si on commence à évaluer les progrès, ou les bénéfices, ça veut dire que des tas de formes d'évaluation entrent en jeu, par exemple économique. À quoi sert, par exemple, une voie, un 4x4 qui fait 2,5 tonnes? À quoi ça sert? Si vous dites quel est le bénéfice de ce 4x4, évidemment, assez vite, ça va être difficile à démontrer. Enfin, frimer, tout ça, ok, bon, c'est un bénéfice, mais c'est assez difficilement justifiable. Et vous voyez que là, si vous dites, je dois évaluer ça aussi, pas simplement les risques, parce que le risque du 4x4 mis à part tuer des enfants à faible vitesse, c'est pas énorme, ou les histoires de CO2. Et donc, vous voyez, vous changez la nature de l'évaluation si vous dites, je regarde les deux côtés de la balance, parce que là, donc, du côté bénéfice, il y a aussi la question de quel type de bénéfice on parle. Est-ce que ça soigne les gens? Est-ce que ça sert à quelque chose? À qui ça sert? Est-ce que ça fait gagner de l'argent? Est-ce que ça fait du travail en plus? Enfin, toutes ces questions peuvent apparaître. Vous voyez, fabriquer des missiles, ça fait du travail en plus. Enfin, une troisième question, c'est qu'est-ce que ça veut dire évaluer avant même de savoir comment le faire? Est-ce qu'on parle d'évaluation quantitative ou d'évaluation qualitative? C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de mesurer quelque chose ou est-ce qu'on fait des scénarios? Par exemple, en disant, ce médicament, comme tous les autres, est dangereux, potentiellement. Il peut provoquer des morts, des maladies cardiovasculaires, des ceci, des cela, etc. Mais on ne cherche pas à quantifier parce qu'on considère que les bénéfices, par exemple, sont très importants. Et donc, quantification versus qualification, c'est quelque chose de très important parce qu'on va chercher à faire de la quantification. Le problème, c'est que ce n'est pas toujours possible. Alors, comment évaluer les risques? Donc, il y a plein de méthodes différentes pour évaluer les risques. Il y a plein de méthodes différentes. Il y a des méthodes qui sont très laboratoires. Il y a des méthodes qui sont très terrain. Il y a des méthodes qui sont vraiment extrêmement bizarroïdes. Enfin, il y a plein de façons différentes d'évaluer les risques. En fonction de la nature du risque, je l'ai dit, en fonction de l'usage et en fonction de la technologie. Par exemple, vous pouvez laisser un four. Par exemple, dans quelles circonstances un four n'est pas dangereux? Eh bien, au bout d'un moment, on a dit il faut que la plaque extérieure soit en dessous d'une certaine température. Parce que, là encore, un enfant, les enfants sont des formidables expérimentateurs. Qu'est-ce qu'il va faire? Il y a du verre, c'est joli, il se voit dedans, il met les mains. Et donc, si la plaque est à 90 degrés, vous risquez d'entendre un hurlement, ou si vous n'êtes pas présent, vous risquez de retrouver un enfant en mauvais état. Et donc là, vous voyez, c'est de l'expérimentation qui est assez simple. Simplement, il faut avoir un enfant, et en général, les enfants ne sont pas présents dans les laboratoires. Donc, vous établissez une norme à partir des usages ou à partir d'accidents existants. Mais vous pouvez faire des normes a priori avec des méthodes d'expérimentation. Par exemple, pour le four à micro-ondes, pour rester dans le même domaine, le four à micro-ondes, vous cherchez à mesurer la fuite de champs électromagnétiques. Pour deux raisons. D'abord, parce que plus ça fuit, plus vous perdez de l'énergie. Et puis, plus ça fuit, plus vous estimez que ça peut avoir des effets sur l'environnement immédiat. Par exemple, la personne qui est en train d'utiliser le four à micro-ondes. Et donc, vous faites des expérimentations en laboratoire. Vous avez besoin de personnes, vous avez juste besoin d'appareils pour mesurer typiquement les champs électromagnétiques. Alors, ces méthodes ont été, peu à peu, dans certains domaines, extrêmement sophistiquées, routinisées. Je prends ici deux exemples autour de cette question de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'homologation. Celui de l'aviation et celui des pesticides. Aujourd'hui, chaque boulon d'avion est décrit de manière singulière. Vous savez qui l'a fabriqué, à quel moment, avec quelle opération, avec quelle machine. Et avec quel autre truc il a été associé. Pourquoi? Parce que l'industrie aéronautique s'est bâtie comme ça, avec l'idée que tout accident devait pouvoir permettre d'apprendre des choses. Et c'est comme ça qu'on découvre, par exemple, qu'il y a eu un accident qui est lié au fait que, dans le Boeing, il y a eu un incendie sur un moteur, et le pilote, évidemment, qu'est-ce qu'il fait le pilote, comme dans les films, il coupe le moteur. Et qu'est-ce qui se passe? L'avion tombe. Pourquoi l'avion tombe? Parce que les câbles ont été inversés au moment du montage. Donc, le moteur droit, d'habitude, le moteur droit et le moteur gauche, si vous voulez, Non, c'était pas un moteur droit et un moteur gauche, c'était un quadrimoteur, donc le moteur extérieur et le moteur intérieur avaient été inversés. Et donc il s'est retrouvé d'un seul coup, non, avec zéro moteur d'un côté et avec deux moteurs de l'autre côté, il n'a pas réussi à redresser l'avion. Et on s'est rendu compte que cette inversion de câble avait été faite sur un nombre impressionnant d'appareils de série. Petite erreur, grand effet dans une circonstance particulière. Et donc ce modèle de l'homologation est un modèle qui est une procédure très stricte a priori et qui fait qu'un avion vole, vous savez, c'est l'Airbus A380, vole, fait des expérimentations dans tous les sens, va dans des nuages monstrueux, fait des tas de choses avant d'être homologué, c'est-à-dire qu'on puisse le vendre et qu'il puisse voler de manière commerciale. Ce modèle de l'aviation donc, date des années 30 et 40. Il y a un autre modèle qui est en train de se mettre en place, qui est celui des pesticides, avec la directive REACH, une directive européenne, où on va avoir tout un système d'homologation poussée, d'évaluation de la toxicité des molécules avant leur mise sur le marché. Et on va dire, vous devez faire ceci, 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 cela, avant qu'on vous autorise à en vendre. Alors vous allez me dire, ah bon, ils font pas ça d'habitude. Non, ils font à peu près ce qu'ils veulent. Ils ont des textes de toxicité qui sont relativement simples et ils ont des expérimentations qui sont principalement liées à l'efficacité des molécules. Voyez, on revient à la question de bénéfice-risque, c'est-à-dire, oui, c'est super, cette molécule, ça tue tous les insectes, les parasites, je peux faire plein de super légumes, bien. Et puis après, vous vous rendez compte que, ah oui, il n'y a plus d'insectes, mais il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus de rats, il n'y a plus de lapins, il n'y a plus rien. Et éventuellement, il y a des effets sur la santé humaine, et vous retrouvez avec le DDT, qui était un produit miracle, et qui a été interdit, suivant les pays, entre 10 et 30 ans plus tard. Donc ce modèle, c'est dire, avant même de faire une innovation, et de la vendre, de la mettre sur le marché, de l'utiliser, vous devez faire toute une série de choses. Alors, je prends un autre exemple, qui est très connu, qui est celui des essais cliniques, c'est-à-dire les médicaments. En gros, mettre un médicament sur le marché, ça prend entre 8 et 15 ans. Pourquoi ? Parce que vous avez des essais thérapeutiques, donc des phases précliniques sur les animaux et in vitro sur des cellules, puis des phases sur des humains. Donc ça, c'est des phases de toxicité, en fait. C'est-à-dire ça, c'est sur des volontaires qui sont sains. Vous pouvez être payé, hein, si vous avez des problèmes d'études, vous pouvez faire volontaire pour un laboratoire pharmaceutique. Donc on va vous donner des trucs et on va essayer de voir si ça a fait des effets sur vous. Des effets négatifs, j'entends, pas les effets positifs, hein, c'est pas prévu. Ensuite, on travaille sur phase 2 sur des malades, puis sur quelques milliers de malades en phase 3, et à la fin, on a une autorisation de mise sur le marché. Donc vous voyez un énorme système qui vous dit, l'innovation technologique, c'est dangereux, donc vous expérimentez d'abord, et après on vous autorise. Alors ce qui est vrai pour le médicament, par exemple, peut être vrai pour d'autres domaines. Vous pourriez dire, par exemple, tout nouveau métal, tout nouvel alliage, doit être testé. Vous allez me dire, pourquoi les métaux, c'est pas dangereux? Oui, vous oubliez les allergies. Il y a eu des controverses absolument énormes quand on a pris les pièces pour l'euro, puisqu'il y a plein de gens qui sont allergiques à certains métaux. Alors vous allez dire, c'est pas grave, oui, mais ils manipulent ça toute la journée. Vous voyez, si vous avez par exemple, vous êtes caissier en supermarché, vous êtes allergique au nickel. Donc vous pouvez dire, cette caisse, uniquement carte bleue chèque. Ça, c'est une solution, évidemment. Mais ça pose quand même un problème. Donc, est-ce qu'on peut continuer à faire des pièces en nickel alors que les gens sont allergiques? La réponse est oui, puisque la Nouvelle-Calédonie, autrement dit la France, est le premier producteur mondial de nickel. Et que c'est bien quand même d'écouler du nickel dans les pièces. Petite remarque en passant. Donc, comment évaluer les risques? Ça, je l'ai dit, ça. Voilà. C'est bien d'évaluer a priori. Ce que j'ai dit sur les avions tout à l'heure, c'est un bon exemple. C'est-à-dire que les avions, c'est quelque chose de dangereux. Alors là, normalement, quelqu'un dans la salle doit dire « Attendez, moi je sais, c'est beaucoup moins dangereux que la voiture, les gens ont peur, mais en fait, ils sont irrationnels. » Non. L'avion, c'est toujours dangereux. Et c'est bien pour ça qu'on prend des mesures spécifiques, c'est pour que ça ne soit plus dangereux de manière provisoire. C'est pour ça que les pilotes, par exemple, vous savez qu'en voiture, vous pouvez avoir 70 ans, avoir 2 sur 10 de vision, et vous pouvez conduire. Si vous êtes pilote d'avion, vous ne pouvez pas. Pourquoi ? Parce que l'avion, c'est dangereux. La voiture n'est pas considérée comme assez dangereuse, et donc des gens qui ont des problèmes de vision importants peuvent conduire. Ils ont moitié le droit, mais bon, on les laisse faire. Un pilote, première chose qu'on fait, c'est on le sort de l'avion, Et on lui dit, non, je crois que ça va plus être possible, il va falloir se reconvertir et être personnel au sol. Donc ça, c'est quelque chose à bien saisir, c'est-à-dire, plus quelque chose est dangereux, plus il y a développement de dispositifs associés. Alors, une procédure continue, je prends l'exemple ici de cette magnifique vache, qui à l'époque n'était pas folle, même si elle a une tête un peu bizarre, parce que on a des systèmes de ce type-là. C'est-à-dire, on vous dit, bon, voilà, vous pouvez manger de la viande de bœuf, il n'y a aucun problème. Sauf que certains animaux sont malades. Alors, comment est-ce qu'on sait qu'ils sont malades? On le sait parce qu'on surveille de manière continue. C'est exactement comme les accidents d'avion. C'est-à-dire qu'on regarde à chaque endroit, on prélève des têtes, on fait passer par des laboratoires. On a tout un système qui permet d'assurer une vigilance en permanence en disant, la viande de bœuf, c'est pas dangereux, mais on surveille quand même. Vous voyez, c'est une variation qui est assez intéressante. C'est-à-dire, on surveille parce que on considère que potentiellement, il y a un danger. Pour prendre un domaine qui n'a strictement rien à voir, quand on a les premières cartes de téléphonie mobile sans identification sont apparues, la première chose qu'a fait le gouvernement, à travers le ministère de l'Intérieur, et à l'époque, ce n'était pas Nicolas Sarkozy, première chose qu'ils ont dit, c'est « Oh là là, on arrête ça tout de suite, vous demandez une carte d'identité aux personnes. Pourquoi ?» Parce que sinon, évidemment, ça peut être utilisé par les gros méchants, les terroristes, les trafiquants de drogue, etc. etc. Et donc, la technologie elle-même n'était pas problématique, à condition qu'on puisse identifier à qui appartient, disons pour le dire vite, la carte SIM. Donc là, c'est la même chose, c'est-à-dire vous avez une innovation, elle est sur le marché, et vous avez des dangers secondaires, et il faut surveiller pour éviter ces dangers secondaires, ou les limiter. Troisième question, qui évalue les risques? Alors ça, c'est une vraie question qui est intéressante, parce que qui est le mieux placé? Première vision, le mieux placé, c'est celui qui fabrique. Vision très américaine, pourquoi on vous dit le mieux placé, c'est celui qui fabrique? Parce que si ces produits sont risqués, il va avoir des tonnes de procès qui vont lui arriver, il va perdre beaucoup d'argent, sa réputation va être ruinée, et donc il a intérêt à faire des produits non risqués. Ça, c'est une vision très américaine, fondée sur la responsabilité civile. Et c'est une façon de voir les choses qui a existé aussi en France pendant longtemps dans un certain nombre de domaines. Donc, vous êtes Bouygues, mais c'est le cas, par exemple, de certaines professions. La garantie décennale des bâtiments. On considère que c'est l'architecte, le maître d'œuvre qui bâtissent et qui garantissent pendant 10 ans. Et donc, si le truc s'écroule dans les 10 ans, il y a une responsabilité et ça tourne relativement bien. Il n'y a pas en permanence l'État qui intervient pour évaluer le fait que les bonnes méthodes ont été utilisées pour construire le bâtiment. Deuxième type d'acteur. La puissance publique doit être celui qui évalue les risques. C'est-à-dire l'État, parce qu'il est impartial, dégagé des intérêts, doit déterminer quels sont les risques. C'est une vision qui a été très prégnante en France, en gros, entre les années 60 et les années 90. Alors pourquoi ça s'est arrêté? C'est parce que l'État, c'est qui? L'État, c'est des fonctionnaires qui sont pas très bien payés, qui n'ont pas énormément de temps, qui sont très peu nombreux et qui ont des dossiers qui font 5 à 6 000 pages. Et donc dans ces 5 à 6 000 pages, ils doivent décider que effectivement tel type de procédure, tel matériau, telle substance doit être autorisée ou pas. Et donc il y a une nouvelle version à partir des années 90 qui est l'indépendance de l'expertise. On va vous dire l'évaluation, c'est scientifique. La gestion du risque, c'est quelque chose, c'est-à-dire l'État prend des décisions, mais l'évaluation doit être faite par les scientifiques. Et donc, c'est vous, ou vos cousins scientifiques, ou les miens, enfin, assez peu les miens, qui décident de dire, voilà, ce produit est dangereux, maintenant vous faites ce que vous voulez, vous l'autorisez ou vous ne l'autorisez pas, c'est ça le danger, c'est tel type de danger, à telle fréquence, etc. Alors, je vais vous prendre un exemple de ce qu'est l'État, et du problème d'évaluation des risques. Je vais faire le premier. C'est d'une fonctionnaire qui travaillait à la Direction Générale de l'Alimentation, qui était vétérinaire, Les vétérinaires ne s'occupent pas que des animaux, je le dis tout de suite. Hein, si vous avez rêvé d'être vétérinaire en étant petit en disant « Ah ouais, je vais soigner les animaux », les vétérinaires s'occupent beaucoup d'hygiène alimentaire, ce qui est un peu moins sexy comme ça, mais en tout cas ce qui est assez important. Et donc, elle disait, voilà, donc la listeria, qu'est-ce que c'est? La listeria, c'est une bactérie qui, entre autres, provoque des décès qui est identifié depuis 1983 comme maladie alimentaire, qui se trouve dans des fromages au lait cru, des charcuteries, dans plein de choses différentes, et qui tue les gens ou qui les rend très malades en quelques mois. Et donc voilà son regard quand elle était sur le terrain, qu'elle faisait de l'évaluation des risques. Elle disait, bon, il y a une listeria dans le produit, c'est une non-conformité. On avait tendance à penser que c'était une non-conformité et non pas quelque chose de grave. Elle faisait de l'évaluation des risques. Elle disait, voilà, ils ne respectent pas complètement la réglementation, mais on met pratiquement à genoux une entreprise, désolé pour la faute d'orthographe, donc il ne faut pas le faire à la légère. Elle a en face d'elle un fabricant, par exemple de fromage, de spécialité, de charcuterie, etc. Et elle se dit, bon, ben voilà, il y a un peu de listeria, mais enfin, est-ce qu'on va mettre 200 personnes à la porte? Donc, elle fait une évaluation des risques. Un risque sanitaire d'un côté, un risque économique de l'autre. Un peu plus tard dans sa carrière, elle est à la Direction Générale de la Santé. Voilà sa vision de l'évaluation des risques. Il y a des gens qui meurent, les statistiques de listériose, c'est ça. Il y a des enfants mort-nés à la naissance. Alors, l'enfant, c'est la victime idéale. Et alors, l'enfant mort-né, c'est la victime encore plus idéale, parce que là, c'est l'innocence absolue. Et donc, c'est celle vraiment à qui on ne peut rien reprocher. Quoi. On prend conscience d'un certain nombre de choses. Quand on raisonne en termes de nombre de morts, on ne raisonne plus pareil. Mais vous voyez, si vous quantifiez les décès, et si vous dites « ceci est ma mesure du risque », vous faites une opération différente que si vous comptez, par exemple, le nombre de chômeurs. Alors évidemment, vous allez me dire, attendez, si c'est 10 000 chômeurs et un mort, on pourrait faire un petit truc... Si c'est un chômeur, un mort, bon d'accord, un chômeur c'est moins grave. Mais 10 000 chômeurs et un mort. 100 000 chômeurs et un mort. Hein, 1 million de chômeurs et un mort. Il y a un moment où vous sentez que... Oui. Et donc, quel type d'évaluation des risques? Là, c'est la même personne, à 5 ans d'écart. Quel type d'évaluation des risques? Et qui doit faire l'évaluation des risques? Parce que là, vous voyez, c'est une fonctionnaire qui sur le terrain faisait une évaluation des risques et prenait une décision. Si on dit, on fait une norme, listeria, tout le monde doit la respecter, c'est une vision qui est évidemment très différente. Cette expertise, elle s'est fondée sur trois principes essentiels. Donc d'abord, on sépare l'expertise et la gestion, même si on maintient une tutelle. C'est-à-dire, on dit, voilà, les experts, vous décidez tout seul dans votre coin, vous ne décidez pas, vous évaluez tout seul dans votre coin, et nous, après, on décide. D'accord? Vous voyez, on sépare complètement les choses, c'est-à-dire que la situation d'avant où on avait une veto qui faisait une évaluation et qui prenait une décision en même temps est quelque chose qui normalement est terminé. Deuxième principe, on publicise les avis. C'est-à-dire on dit, voilà, notre avis est ceci, mais il y a un secret des comités en même temps, j'y reviendrai sur le cas des OGM, c'est-à-dire que tout ça n'est pas filmé 24 heures sur 24 en direct pour savoir ce que X ou Y a dit. Ce qui a une conséquence non négligeable. Enfin, troisième élément, on a une autonomie parce que tous ces gens-là, il faut les payer. Le problème de l'évaluation des risques, c'est que ça coûte cher, voire très cher. Et donc, ça revient à la question que j'avais avant, c'est-à-dire qui le fait. Si vous dites c'est l'État qui le fait, est-ce que c'est l'État qui le fait et l'État qui le paye? Ou est-ce que vous dites c'est l'État qui le fait, mais c'est les fabricants privés qui payent? Vous voyez, vous avez des visions très très différentes suivant qui paye. Et on va vous dire, mais attendez, si ça coûte, il ne me reste que 5 minutes? Alors je vais accélérer. Si vous dites, ce sont les fabricants qui payent, on vous dit, ah oui, mais attendez, vous êtes trop strict dans l'Union Européenne, les Chinois n'ont pas ce type de contraintes, et eux vont continuer à avoir de l'innovation. Donc je vais accélérer. Je vais faire la troisième partie en forme de conclusion. Alors, le principe précaution là-dedans, qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça change quelque chose ou pas? Alors concrètement, tout ce que j'ai dit avant, il y a plusieurs problèmes qui sont associés. La première, c'est comment est-ce qu'on rapproche l'évaluation de laboratoire des situations réelles? Comment est-ce que vous évaluez dans un laboratoire la distance que peut parcourir du pollen OGM? Je sais pas, vous faites des vents, des trucs, des machins, vous faites des maquettes, comme dans Star Wars, vous faites des trucs comme ça. Bon, la simulation a ses limites. Deuxième problème. Quelle doit être la durée de l'évaluation? Quel est le temps nécessaire pour faire preuve? Combien de temps faut-il nourrir des vaches avec des farines? Combien de temps faut-il nourrir des rats avec des OGM? Combien de temps faut-il exposer des hamsters à des téléphones portables pour se dire, il n'y a pas de problème, tout ça est parfaitement sûr? Le problème des hamsters, des rats, etc., c'est que ça ne vit pas longtemps. Le problème des vaches, c'est que ça coûte très cher à nourrir. Vous avez évidemment une version alternative qui est de dire, nous ne faisons aucune innovation dans notre pays, nous attendons les résultats des autres. Les Australiens autorisaient les téléphones portables, 1982, et on verra dans 20 ans si vous avez une augmentation de cancer ou pas. Enfin, troisième question, comment prendre en compte les effets inconnus ou purement hypothétiques? Ça, j'y reviendrai à travers un petit exemple, puisque j'accélère. Alors, ce principe de précaution, d'où il vient? Il vient principalement du domaine environnemental et pas du tout technologique, à travers le protocole de Rio. Il vise à empêcher les irréversibilités. C'est-à-dire, en gros, si vous voulez, c'est le dossier du réchauffement climatique, pour le dire vite. C'est-à-dire, voilà, une fois qu'on a gagné 2 degrés, comment est-ce qu'on redescend de 2 degrés? Ben, on ne peut pas. Donc l'idée est de dire, en situation d'incertitude scientifique, quels sont les choix qui nous permettent de limiter l'irréversibilité? Troisième élément, et là, j'insiste sur ce point, si vous avez un seul truc à retenir dans tout ce que j'ai dit, c'est ça. Il s'agit de favoriser la production de connaissances et non pas d'arrêter la recherche. Car le principe de précaution, ce n'est pas dire on ne fait rien parce que c'est le principe de précaution, on interdit, on n'autorise pas. C'est dire nous sommes en situation d'incertitude, pour nous décider, nous devons produire plus de connaissances. Autrement dit, faire de la recherche. Petit exemple, tout récent, le fameux, alors tout ce que j'ai dit avant, ça s'applique à ce bel exemple, le fameux Mont 810, dont vous avez entendu parler, donc l'OGM, maïs, etc., un truc. Et alors, vous voyez l'avis, alors première chose, oui, vous savez que suite à cet avis, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le secret des comités que j'évoquais tout à l'heure, il y a 12 scientifiques du comité qui ont dit, mais attendez, le type qui a parlé pour nous, là, en fait, nous, on n'était pas du tout d'accord. Donc vous avez un avis public, et derrière, vous avez les membres du comité qui disent, ça s'est pas passé comme ça. Ce qui montre toujours les limites. Et la formule intéressante ici, c'est celle-ci. C'est doute sérieux. Ils ne disent pas, nous avons démontré que les OGM sont dangereux. Ils disent, nous avons des doutes sérieux. Et alors après, ils disent, sur quoi est-ce qu'on a des doutes sérieux? Ça, cette formule, je passe. Les premières études sur le Mont 810 évoquaient une dissémination sur quelques centaines de mètres. Là, je parle des pollens que j'évoquais tout à l'heure. Une recherche plus récente au Canada montre en fait que la dissémination peut se faire sur plus de 100 kilomètres. Donc, si vous avez un modèle qui vous dit « je veux permettre à des gens qui ne font pas des OGM de pouvoir les faire », vous devez avoir une zone de 500 kilomètres autour de la parcelle OGM. Autrement dit, vous faites des OGM en Suède et pas ailleurs, ou en Italie, mais pas dans le reste de l'Europe. C'est au choix. Et donc ça, ce type d'avis, qui n'arrête en rien la polémique, montre très bien une application concrète du principe de précaution. C'est-à-dire que vous inversez dans une certaine mesure la charge de la preuve et vous soulignez non pas les certitudes, mais les incertitudes. Hop. J'arrive à la fin. Et donc, les questions que ça pose, c'est est-ce que vous pouvez adopter un modèle linéaire quand il s'agit de risque? C'est-à-dire, en gros, est-ce que vous avez des effets proportionnels ou est-ce que vous avez des vraies ruptures? Est-ce que vous, si vous savez à peu près ce qui se passe là et que vous inventez une petite technologie qui est un peu différente, est-ce que vous pouvez extrapoler à partir de ce que vous connaissez déjà? Ou est-ce que vous devez à chaque fois refaire les preuves et rechercher les risques parce que les choses peuvent être différentes? En chimie, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire, en chimie, vous savez très bien que vous changez, par exemple, la stéréochimie d'une molécule, hein, je veux dire celles qui sont à droite ou qui à gauche, il y en a qui n'ont pas d'odeur, il y en a qui ont une odeur. Et donc, pour les risques, c'est exactement la même chose. Vous savez, en chimie, que vous changez un petit peu une molécule et d'un seul coup, vous avez quelque chose de très toxique. Est-ce que c'est vrai pour d'autres types de technologies ou pas? C'est ce genre de questions qui se posent. Deuxième leçon, les risques évitables et non évitables. Donc, je prends ce magnifique exemple. Voilà. C'est joli, hein. C'est quoi? C'est un portable pour les 2-5 ans. Alors là, l'attitude est la suivante, c'est de dire, attendez, on ne sait pas s'il y a des risques, même si on peut faire une hypothèse de bon sens liée au développement des structures nerveuses, du cerveau, du machin, du truc, mais la question c'est, est-ce qu'on peut éviter ces risques? Autrement dit, on revient à l'évaluation des bénéfices. C'est-à-dire, est-ce que ça sert à quelque chose ce truc ou pas? Bon, c'est joli, c'est mignon, non? Troisième leçon, faire place aux hypothèses minoritaires, voire farfelues. Et j'en reviens là. Ça va vous faire un peu peur quand même pour finir. Des générations de mères américaines, anglaises, françaises ont pris ce produit. Elles ont eu leurs enfants, formidables. Les filles arrivées à l'âge de 20 ans, pour nombre d'entre elles, ont eu des cancers gynécologiques, ont des malformations gynécologiques importantes. Certaines d'entre elles n'ont néanmoins pu avoir des enfants. Parmi ces enfants, les filles, qui ont aujourd'hui 20 ans, ont des malformations, ont des cancers gynécologiques. Donc vous avez des effets aujourd'hui démontrés sur deux générations. Tout cela pour éviter un risque éventuel de fausse couche. Conclusion. À quoi on assiste aujourd'hui? On assiste d'une part à une généralisation des modèles d'évaluation sophistiqués des risques en amont et en aval de la production. Donc pourquoi est-ce qu'on est en amont, on parle plus de risques? C'est parce qu'on est capable de les voir davantage, de les modéliser, d'en parler, de les quantifier, de les qualifier. Deuxième caractéristique, on a un apprentissage des vulnérabilités, c'est-à-dire on sait que quand on fait une production de masse, quand on fait des réseaux de circulation, on a le SRAS en 3 semaines. Et qu'on crée des irréversibilités, de type changement climatique, mais des irréversibilités beaucoup plus locales, ça on a appris, on a payé pour voir. Et donc, comme on a payé pour voir, on se dit que ça peut arriver aussi pour ceci, 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 cela. Enfin, on a une prise en compte d'effets multiples, tant positifs que négatifs, et je pense que le dernier exemple vous montre que, y compris dans les cas auxquels on ne pense pas, on peut avoir typiquement des effets tératogènes sur plusieurs générations. Et évidemment, vous dites, oh, bon, les OGM, c'est n'importe quoi, ça ne peut pas arriver. Sauf que le DES, ça ne pouvait pas arriver non plus. Je vous remercie.